Thésée fut, sans aucun doute, un des héros les plus célèbres de la ville d'Athènes, qui devait devenir un jour la cité la plus importante de Grèce et assurer son hégémonie d'abord sur la province de l'Attique, puis sur toute la péninsule hellénique. Le proverbe « rien sans Thésée » naquit de la popularité du héros, ce qui montre bien la place qu'il occupait dans le cœur du peuple athénien. Thésée était le fils d'Égée, roi d'Athènes, et de la princesse Aétra, une des filles de Pythée, roi de Trézène. Mais des bruits circulaient comme quoi Poséidon, dieu de la mer, n'aurait pas été étranger à la paternité du garçon. Quelque temps avant qu'Aétra ne donnât le jour à son enfant, Égée, qui devait regagner son royaume, entraîna son épouse vers un endroit rocheux, hors des portes de Trézène, puis lui dit
« Je vais enterrer mon épée à la garde ciselée d'or et mes sandales dans ce trou creusé dans le sol et le recouvrir de cette énorme pierre. Si tu me donnes un fils, ce que j'espère, un jour viendra où il sera assez fort pour soulever le rocher et s'emparer de mon épée et de mes chaussures. Alors, tu l'enverras vers moi à Athènes et je le reconnaîtrai pour mon fils et légitime héritier. »
Aétra et Pythée, sa mère et son grand-père, avaient souhaité que Thésée rejoignît Athènes par voie de mer, et ils avaient armé un solide bateau dans cette intention, mais Thésée refusa tout net. Thésée s'en alla vers son destin, tournant le dos à la ville qu'il avait vue naître et grandir. Son voyage fut long et pénible, car comme le lui avait dit Pythée, le pays regorgeait de brigands de toutes sortes qui rançonnaient et qui tuaient les voyageurs de rencontre. Mais malgré sa jeunesse, Thésée parvint, grâce à sa force et à sa ruse, à triompher de tous. Sa justice était implacable et pleine de logique. Il faisait subir à chaque bandit le sort que ce dernier réservait à ses victimes. Ainsi, Sinis, qui tuait les gens en leur attachant les bras et les jambes à des branches de pin qu'il courbait pour les relâcher ensuite, arrachant ainsi d'un coup les membres des malheureux, fut tué par Thésée de la même façon. Le jeune homme nettoya toute la contrée infestée par les criminels. Et bientôt, avant qu'il n'atteignît Athènes, sa renommée fut telle que toute la Grèce chantait ses louanges et le proclamait justicier des dieux. Tout le pays parlait du jeune redresseur de tort. Ce fut donc en héros consacré qu'il parvint à Athènes, et sa popularité grandissante commença à inquiéter le roi Égée lui-même, qui ignorait encore que Thésée était son fils. Il réunit ses conseillers les plus fidèles et les plus sûrs, auxquels vint se joindre la perfide magicienne Médée, celle-là même qui avait été l'héroïne de la conquête de la Toison d'Or. Grâce à sa science magique, Médée seule connaissait l'identité réelle de Thésée. Mais elle gardait le secret, car elle voulait conserver son influence toute puissante sur le roi. Après avoir réuni son conseil, son aréopage, comme on appelait cette assemblée à Athènes, le roi tint ce langage aux assistants.
Les exploits de ce jeune Thésée l'ont rendu si populaire qu'il pourrait soulever la ville contre nous et usurper notre trône et notre pouvoir. Il faut l'arrêter et l'empêcher de nuire.
Non, noble roi, convie-le au contraire à un grand banquet au palais. Je préparerai un breuvage de ma composition et quand il portera la coupe d'or à ses lèvres, il tombera raide mort.
Thésée fut donc invité au grand festin que le roi Égée donna en son honneur au palais royal. Outre Médée, le roi y assistait les citoyens les plus riches et les plus influents d'Athènes, et l'aréopage au grand complet. À l'instant des libations, Égée se leva, s'adressa à Thésée en levant sa coupe d'or.
Je remercie les dieux de t'avoir mené jusqu'à nous, jeune homme dont j'ignore encore le nom. Mais la renommée de tes exploits t'a précédé et le peuple te proclame justicier des dieux.
Médée, à cet instant, versa son breuvage empoisonné dans la coupe de Thésée, qui se leva pour répondre à l'accueil du roi. C'est alors que le roi Égée aperçut la gaine et le pommeau cerclé d'or de sa propre épée que Thésée portait avec lui. Il sut immédiatement que le jeune héros était son propre fils, qu'il avait eu d'Aétra. D'un brusque revers de main, il renversa la coupe destinée à Thésée et remplit du poison qui s'écoula sur le sol. Un des chiens du roi, en lapant le liquide, fut pris de convulsions et mourut sur le champ.
Ne touche pas à cette coupe, malheureux!
Viens sur mon cœur. Je suis ton père, le roi Égée. Et toi, tu es Thésée, mon premier fils, que m'a donné la douce Aétra de Trézène.
Bénis soient les dieux qui m'ont permis de venir jusqu'ici pour te retrouver, ô mon père.
Thésée vécut quelques mois, heureux, dans le palais de son père. Il participait aux réunions de l'Aréopage, et ses conseils avisés émerveillaient la digne assemblée par leur sagesse. Un jour, le roi Égée l'entraîna dans un bosquet des jardins du palais pour lui parler en tête à tête. Il lui révéla alors qu'un événement grave se préparait.
Voici que, pour la troisième fois, le terme de la grande année va revenir vers nous. Le cauchemar va recommencer et il va nous falloir livrer notre tribu à Minos, roi de Crète.
Le lendemain, le roi Égée, l'aréopage au grand complet, l'envoyé crétois du roi Minos et le grand prêtre de Poséidon désignèrent les 14 victimes qui devaient partir pour la Crète. Mais Thésée s'avança le premier.
Je réclame l'honneur de partir avec mes amis que vous allez choisir.
Tous les regards se tournèrent vers Égée pour observer la réaction qu'il aurait devant le sacrifice de son fils. Mais le vieux roi leva le bras, l'air de dire qu'il s'en remettait aux dieux. Une foule en larmes, réunie sur le port, regarda s'éloigner sur les flots bleus de la mer le grand navire aux voiles noires, emportant vers leur destin les 7 plus vaillants garçons et les 7 plus belles jeunes filles d'Athènes. Ils étaient debout à l'arrière du bateau et ils agitaient des rameaux de myrte en signe d'adieu. Cependant, la traversée fut joyeuse pour les jeunes gens qui ignoraient tous, sauf Thésée, le sort affreux qui leur était réservé. Après 2 jours et 2 nuits de voyage, le bateau entra doucement dans le port crétois et une escorte de soldats mena les jeunes Athéniens jusqu'au palais de Minos à Knossos. Auparavant, on les avait dépouillés de tous leurs vêtements et on leur avait lié les mains derrière le dos. Les garçons, Thésée à leur tête, précédaient les filles. Une foule importante se pressait le long du chemin. Et le silence était oppressant. Le roi Minos, son épouse Pasiphae, ses 2 filles Phèdre et Ariane, et les autres enfants royaux, attendaient l'arrivée des victimes devant l'entrée principale du palais. Dès qu'Ariane aperçut Thésée, elle en tomba follement amoureuse. Et elle décida sur le champ, en son fort intérieur, de sauver la vie du jeune homme. Les jeunes gens ne devaient être livrés au Minotaure que le jour suivant. Le monstre vivait au cœur d'un immense bâtiment, édifié spécialement pour lui par le fameux ingénieur Dédale, architecte du roi Minos. Cette construction gigantesque, appelée le labyrinthe, possédait une particularité étonnante. Une fois qu'on avait pénétré à l'intérieur, il était impossible d'en trouver la sortie. C'était un enchevêtrement de couloirs rectilignes ou courbes, un méandre de pièces sans issue et d'impasses qui a laissé dans le langage courant le mot « dédale » du nom de son inventeur pour désigner un lieu où il est facile de s'égarer. Le soir, tandis qu'on gardait sévèrement les jeunes Grecs dans un lieu secret du palais de Minos, la belle Ariane alla trouver le vieil architecte Dédale, qui était son ami. Alors le vieil homme se leva péniblement et alla ouvrir un grand coffre de bois soigneusement cadenassé, situé dans un recoin de la pièce. Il en sortit une grosse pelote de laine blanche et revint la donner à Ariane.
Va trouver Thésée et remets-lui cette pelote de laine. Il faudra qu'il s'arrange à être le premier qu'on envoie au Minotaure, car les victimes sont livrées une par une au monstre. Sitôt entré dans le labyrinthe, il attachera l'extrémité du fil à l'intérieur de la porte. La pelote se divide facilement. Pour retrouver la sortie, il n'aura qu'à suivre le fil en le réenroulant. Tu vois, petite Ariane, ce n'est pas bien difficile. Si Thésée suit bien ses instructions, tu reverras ton amoureux vivant.
Ariane remercia chaudement Dédale et cacha la pelote de laine sous les amples plis de sa robe. Puis, elle prit congé de l'architecte en l'embrassant affectueusement sur le front. Alors, Ariane donna à Thésée toutes les instructions remises par Dédale, mais elle ne lui en révéla pas l'auteur. Puis, elle lui donna également la fameuse pelote de laine blanche qu'il devait dévider pour aller jusqu'au repère du Minotaure et suivre pour retrouver son chemin après avoir tué le monstre. Et cette pelote de laine blanche donna naissance à l'expression « le fil d'Ariane ». Jour n'était pas encore levé, quelques étoiles brillaient toujours, quand les gardes royaux vinrent chercher les 14 jeunes Athéniens pour les conduire au Minotaure. Avant leur départ, on couronna leurs chevelures de guirlandes de fleurs comme c'était la coutume pour les victimes de sacrifices expiatoires. On les mit nus, et ils n'avaient aucune arme défensive. Arrivés devant l'entrée du labyrinthe, Thésée, qui serrait dans son poing la pelote de laine blanche, s'avança.
En tant que fils du roi Égée et prince royal d'Athènes, je revendique l'honneur d'être le premier.
On lui accorda cette faveur. À peine la lourde porte de bronze refermée sur lui, Thésée attacha l'extrémité du fil au linteau intérieur. Puis il commença à marcher dans l'inextricable méandre des couloirs du labyrinthe. Plus il avançait, plus la chaleur augmentait. L'air ne pénétrait à l'intérieur de l'édifice que par de minuscules interstices au ras du plafond. Ces interstices laissaient également filtrer de minuscules raies de lumière. Le silence était aussi oppressant que l'atmosphère. Et le jeune homme ne put s'empêcher d'avoir peur. Il tenait toujours son fil soigneusement serré. À l'extérieur, le jour se levait radieux comme il l'est en Crète. Les autres victimes attendaient, le cœur battant. Ariane parut au loin. Le visage pâle et les traits tirés par l'angoisse, elle se cacha dans un fourré de buissons pour attendre la sortie de Thésée s'il parvenait à vaincre le Minotaure. Thésée avançait, toujours, lentement, prudemment. Il serrait son fil de plus en plus fort. Soudain, après un détour, un rugissement terrible se fit entendre et une odeur atroce de fauve envahit l'air ambiant. Flairant sa victime, le Minotaure s'avançait à la rencontre de sa proie. Quand Thésée l'aperçut, il fut frappé d'horreur une fraction de seconde. Mais reprenant vite ses esprits, il surprit le monstre en bondissant sur lui, tout comme l'aurait fait son cousin Hercule et qu'il admirait tant. Aussi fort que le fils d'Alcmène, il réussit à terrasser le Minotaure, surpris par une telle attaque. Thésée le coucha sur le dos, lui bloqua la respiration en comprimant fortement la poitrine de la créature entre ses cuisses puissantes. Alors, l'Athénien eut l'idée géniale de garrotter le cou de taureau du Minotaure avec le restant du fil de laine de la pelote d'Ariane, et il serra si fort qu'il étrangla le Minotaure qui mourut. Malgré lui, Thésée poussa un cri de victoire en se relevant et ce cri se répercuta en mille échos dans les moindres recoins du labyrinthe. Ainsi qu'Ariane le lui avait indiqué, Thésée retrouva la sortie en suivant le fil de l'Aisne. Il parcourut ainsi le plus rapidement possible le chemin inverse et se retrouva devant la lourde porte de bronze qu'il ouvrit. Une bouffée d'air matinal finit de le revigorer. Quand ils le virent apparaître, ses compagnons se précipitèrent vers lui avec des cris de joie. Les gardes et le capitaine se jetèrent à ses pieds car ils crurent que Thésée était un dieu pour être parvenu à venir à bout du Minotaure. Eux aussi étaient soulagés, car chaque Crétois s'attendait un jour ou l'autre à être livré en pâture aux monstres du labyrinthe. Les soldats offrirent leur aide à Thésée. Alors Thésée aperçut seulement Ariane qui s'avançait vers lui, joyeuse et souriante. Et Ariane se jeta dans les bras du héros. Quand Minos apprit la mort du Minotaure et la fuite des Grecs en compagnie de sa fille Ariane, il entra dans une rage folle. Il fit tuer les gardes et le capitaine qui les avaient conduits jusqu'à leur bateau. Réalisant que seul Dédale avait pu communiquer un plan pour s'échapper du labyrinthe, il le fit enfermer à son tour avec Icare dans une prison bien gardée. Mais Dédale était si ingénieux qu'il parvint à fausser compagnie à ses geôliers et s'échappa avec son fils. Ariane et Thésée vécurent des jours merveilleux pendant la traversée du retour. Cependant, Thésée n'était pas vraiment amoureux d'elle. Il lui était fort reconnaissant de lui avoir sauvé la vie, mais il ne tenait nullement à la ramener à Athènes et à l'épouser. Il préférait continuer à mener là-bas sa joyeuse vie de célibataire, car toutes les plus jolies Athéniennes étaient folles de lui. Comme Ariane supportait mal la navigation et était en proie au mal de mer, on s'arrêta dans l'île de Naxos. Thésée prétexta qu'il devait s'occuper du ravitaillement de leur navire pour abandonner Ariane. Il retourna vite au bateau et reprit le large avec ses compagnons, laissant sur le rivage Ariane qui, folle de désespoir, en mourut. Thésée fut pris de tels remords pendant le reste du voyage qu'il en oublia la promesse qu'il avait faite à son père, le roi Égée, de remplacer la voile noire du bateau par une voile blanche pour annoncer sa victoire et son retour sain et sauf à Athènes. Depuis deux jours, le vieux roi d'Athènes ne cessait de scruter l'horizon du haut des remparts du port du Pirée qui dessert Athènes. Enfin, un navire parut, loin, très loin, sur les flots bleus de la mer. Au fur et à mesure qu'il avançait, on pouvait mieux le distinguer. Et le roi Égée remarqua la voile du bateau. Elle était noire, ce qui signifiait pour lui la mort de Thésée. Alors il pleura. Et aveuglé par la douleur, il se jeta dans les vagues de la mer qui depuis porte le nom de mer Égée. Thésée fut très malheureux de la mort de son père, qu'il adorait. Il devint à son tour roi d'Athènes et vécut de multiples aventures.